Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire en Ituri. 19 personnes ont été sauvagement abattues hier dimanche matin par des miliciens de la CODECO dans le territoire de Djougou. Le chef de cette entité coutumière dénonce les massacres de sa population par cette milice. Il plaide pour des opérations militaires de grande envergure en vue de mettre fin à ces tueries à répétition dans son secteur. Signalant que samedi, une marche a été organisée par les communautés de cette province pour dénoncer la passivité des autorités face aux multiples attaques de la CODECO. Que faire pour faire cesser les massacres contre les civils en Ituri? Quelle chance accorder aux initiatives en cours pour le désarmement de la CODECO? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Lando Mafuta, conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sous la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Il est le point focal du MNS en Ituri. Maître Lando, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue également les collègues de la RDC de France.
Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de Bougnaville dans la province de l'Ituri, cadre du regroupement politique MS de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamouka. Gracien de Saint-Nicolas, bonsoir.
Bonsoir madame qui dit écoutez.
Et Dieudonné Wabona, nadiste indépendant, inspecteur principal de la territoriale dans l'ancienne province orientale. Il est également le dernier chef de district du Haut-Ouélé, ancien chef de district adjoint de l'Ituri. Monsieur Wabona, bonsoir.
Bonsoir madame, quel écouté. Je salue tous mes co-débatteurs.
Merci de nous suivre à Bougnaville dans la province de l'Ituri sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Encore des morts en Ituri. 19 personnes ont été sauvagement abattues dimanche matin par des miliciens de la CODECO dans les localités de Tchoulou, Lisséi et Aloïsé en secteur de Banyarikoli dans le territoire de Djougou. Le chef de cette entité coutumière dénonce les massacres de sa population par cette milice. Il plaide pour des opérations militaires de grande envergure en vue de mettre fin à ces tueries à répétition dans son secteur. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Des assaillants de la CODECO ont envahi dimanche vers 5h du matin les trois localités. Prises au dépourvu pendant les sommeils, la population courait dans tous les sens pour tenter de se sauver. Dans la foulée, certains habitants sont tombés dans les filets de ces inciviques. Selon les chefs de secteur de Banyarikilo, à Aloïse, il y a 12 morts, 2 à Tchoulou et 5 autres à Lisséi. Quelques militaires installés dans la zone n'ont pas résisté à l'assaut des ennemis, affirment des sources locales. Les renforts d'autres soldats est venu de Kilo pour traquer ces miliciens qui s'étaient déjà retirés de ces entités. Pour l'instant, ces villas sont vidées de leurs occupants, outre certains courageux qui auraient gagné les milieux dans l'après-midi de dimanche. Selon eux, les corps des victimes gisent encore au sol. Les chefs de Banyarikilo indiquent que plus d'une centaine de ces administrés sont déjà tués par ces groupes armés et plusieurs villages abandonnés. Innocent Madoukada la demande à la hiérarchie de l'armée d'organiser des opérations musclées pour démanteler cette milice. Bougna Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac pour tous ces détails. Maître Lando Mafuta, je rappelle que vous êtes conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Vous êtes le point focal du MNS en Ituri. Encore des morts dans cette province, précisément dans le territoire de Djougou, des morts causées par la milice CODECO, alors que nous savons que cette milice avait décidé de déposer les armes. Comment on peut expliquer cette énième attaque de la CODECO contre la population civile?
Merci beaucoup madame pour la question. Je commence par condamner avec la dernière énergie et la fermeté ces massacres ignobles, totalement inutiles, n'ayant aucun sens à ce moment où ces groupes, n'est-ce pas, s'est donné la volonté de pouvoir se rendre et faire la paix. Donc, c'est une condamnation ferme qui ne s'éjuge, donc, les massacres ne se justifient pas à ce moment ici, alors que tous on est, n'est-ce pas, soumis au chemin de la paix avec qui, avec quoi nous voulons évoluer et avancer. Mais madame, pour revenir par rapport à ces groupes, groupes dits CODECO, ces groupes-là, depuis la mort de leur leader, ce groupe est divisé à plusieurs factions, donc aujourd'hui, ce groupe-là n'a plus un seul commandement. Là, on peut les retenir parce que il y a les groupes qui se trouvent du côté de Tchaki et du côté Pichi qui sont encore réfracteurs à ce processus. Mais il y a depuis un certain jour l'équipe de sensibilisateurs avait déjà commencé à un contact direct avec ce groupe pour que finalement lui parler de la paix et puis voir comment, dans quelle mesure ils font allusion à l'allégeance du groupe. C'est ce qui a été fait. Ce groupe de sensibilisateurs était en train de se préparer pour ce qui s'est trouvé du côté Magui. Était en train de se préparer pour, n'est-ce pas, rencontrer ces gens-là. Et voilà qu'ils vont nous surprendre avec ces massacres que nous condamnons totalement.
Peut-on dire que c'est un groupe à qui il ne faudrait pas faire confiance?
Le groupe CODECO aujourd'hui, il y a un groupe qui est du côté de Walloon de Tachi et l'autre du côté de Walloon de Pichi. Autre groupe qui est du côté Kobo. Bon, c'est le groupe qui s'est rendu, c'est le groupe qui est du côté Kobo. C'est ce groupe-là qui s'est rendu. Qui a donné la volonté de pouvoir, n'est-ce pas, faire la paix. Alors, les deux autres, là, sont encore réfracteurs, mais il y a des contacts qui avaient déjà commencé pour que, finalement, ces gens-là puissent aussi se rendre. Donc, je vous dis que ce massacre intervient pendant que, finalement, les groupes de sensibilisateurs étaient en train de s'apprêter pour se rendre à Mali, en tout cas rencontrer ces groupes. Et voilà qu'ils vont nous surprendre avec ces massacres totalement ignorants.
Ces massacres se déroulent dans les localités de Tchoulou, Lissey et Aloïse, dans le territoire de Djougou. N'y a-t-il pas des militaires dans ces localités? Comment des miliciens peuvent attaquer sans aucune intervention des FARDC?
Madame, c'est les groupes là, les groupes CODECO, les réfractaires au moins, font une guerre asymétrique dans l'armée congolaise. Donc, ce n'est pas une guerre conventionnelle qu'ils font à l'armée congolaise. Voilà, d'ailleurs, ils n'attaquent pas des positions militaires. Ils viennent s'attaquer aux civils, aux paisibles civils qui sont, n'est-ce pas, paisiblement restés dans leur village. Et c'est comme ça que, finalement...
Et dans ces villages, il n'y a pas une présence militaire?
On sait la présence militaire y est, mais seulement que ce groupe a surpris et le militaire et les villageois qui étaient dans ces villages. Donc, c'est une question de surprise, hein, de tactiques créées par surprise de ces groupes-là.
Y a-t-il suffisamment de militaires déployés dans ces localités?
Oui, madame, il y a, en dépit du fait que, généralement, en Ituri, il y a des éléments déployés par-ci, par-là pour la sécurisation. Et dans ces localités également, il y a des militaires. Mais nous devons reconnaître qu'il n'y avait pas un nombre assez de militaires dans ces localités. Et les groupes qui ont opéré aussi avec en fait les tactiques asymétriques de la guérilla qui le font à l'armée.
On sait que ce groupe opère dans le territoire de Djougou. On ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas assez d'éléments des FARDC.
Oui, madame, dire qu'il n'y a pas assez d'éléments, ce serait peut-être trop dire. Mais je vous dis qu'il existe des éléments des forces armées dans ces coins du pays. Mais c'est seulement la grande surprise que ces groupes-là nous amènent. Et vous savez, les zones dont ils ont attaqué, ce sont des zones pratiquement où nous avons enregistré, n'est-ce pas, aussi les cas de reddition dans ces zones-là. Donc, finalement, l'armée a été surprise comme la population par rapport à la résistance de ces attaques.
Merci, Maître Lando Maputa. On vous garde encore dans cette émission. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, vous êtes député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. Vous êtes cadre du regroupement politique MS de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamuka. Comment vous expliquez cette énième attaque de la milice Codeco.
Bon, je commence d'abord par compatir avec toutes les victimes dans la province de l'Ituri, parce que vous savez que c'est pratiquement tous les cinq territoires et la ville de Bounia qui sont touchés par ces exactions. Et donc, je suis en train de condamner avec la dernière énergie ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Moi, ma qualification, elle est simple. C'est une irresponsabilité totale du gouvernement congolais et du gouvernement au niveau central, tout comme au niveau provincial.
Pourquoi irresponsabilité?
S'il vous plaît.
Pourquoi vous parlez d'irresponsabilité alors que le gouvernement a déployé des militaires dans cette zone pour sécuriser la population?
Oui, on peut avoir déployé des militaires, mais il faut voir est-ce que les préalables ont été respectés, oui ou non. Parce que quand celui qui est passé avant moi me parle de sensibilisation de groupes armés, mais qu'est-ce qu'on appelle sensibilisation? Comment on peut aller sensibiliser un groupe de criminels, de tueurs à pouvoir sortir de la brousse? Il ne faut pas le faire. Ils ont commis des forfaits. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on vise par la sensibilisation. La thèse en est quoi?
Ils ont mais il y a déjà un groupe qui a accepté de déposer les armes.
C'est la formule ordinaire. Depuis qu'ils ont commencé à sensibiliser chez les Walendu Tati, il y a eu combien de morts? Et on a tué les gens sur la route Kasenyi. On a tué les gens sur l'axe Bounia Komanda. Il y a eu des camions qui étaient incendiés sur la route Bounia, sur la RN27 Bounia Magi. Mais c'est quoi cette sensibilisation? Une sensibilisation qui demande en fait qu'on puisse laisser l'opération militaire? Non, ça ne pouvait pas se faire de la sorte là. Non, nous sommes en train de condamner tout simplement parce que pour que quelqu'un se trouve à voie de négociation, il faut qu'il soit en position de faiblesse. Vous ne pouvez pas aller négocier avec quelqu'un qui est en position de force. Non. Pourquoi on peut arrêter les opérations militaires et demander à ce qu'on sensibilise les gens? Il fallait intensifier les opérations militaires partout. Il faut qu'il y ait la puissance des faits. Et c'est alors que les gens qui sont des criminels, qui sont en train de tuer en désordre, peuvent accepter de revenir à la raison. Mais on les laisse, on leur laisse les champs libres. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Je l'ai dit, en chefferie de Mokambo, ils ont quatre groupements, ils font les dégâts comme ils veulent. Aujourd'hui, ils viennent de tuer dans la chefferie des bagnards du Kilo. Mais qui ne connaît pas que depuis tout ce temps, ils sont en train de provenir d'une localité bien déterminée. On sait le village où ils sont en train d'habiter. Il y a eu même des alertes où la population a dit que ces gens, ils se préparent à venir nous attaquer. Mais les forces qui sont là, ils n'ont pas suivi ce que la population a dit. Il y a eu même des officiers qui sont sur place, par exemple chez les bagnards du Tchadi, chez les bagnards du Kilo, excusez-moi, chez les bagnards du Kilo, qui savaient qu'il y aurait attaque et ils sont même en train de parler avec ces assaillants-là. Pourquoi ils n'ont pas donné des signaux nécessaires pour qu'on puisse venir protéger la population? Donc il est hors de question qu'on dise voilà qu'il y a une étape de sensibilisation et qu'il faut laisser à ce que les miliciens sortent. Non, l'armée devait continuer avec son travail et en même temps, à faire sa pression, il fallait maintenant qu'il y ait des sensibilisations pour que ces assaillants, ces tueurs, ces criminels quittent la brousse.
Malgré les alertes lancées par la population, les autorités n'ont pas prêté attention à ça.
Mais exactement, nous avons tous les indices possibles et nous avons toutes les informations possibles. Et ces informations-là, nous les avons à partir même du comité provincial de la sécurité, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Au sein de ce même comité provincial, il y a des gens qui nous téléphonent. Ils disent, voilà, on vient de dire ceci, c'est là. Et tout ce qui se passe là-bas à l'Ituri, souvent moi, on m'a informé des jours avant. On me dit que non, voilà, on va attaquer. On a failli attaquer Dala récemment. Dala, c'est toujours dans Djougou. Moi, quand j'ai informé, ils ont laissé l'attaque. On a failli attaquer une autre localité. Quand j'ai informé, on a laissé. Et même les officiers qui sont là, qui sont chargés des renseignements, et même ceux-là qui sont dans la Journée nationale des renseignements, même ceux-là qui travaillent au sein de la Direction générale des migrations, ils sont en train de regretter, chaque fois ils donnent l'information, mais malheureusement ces informations sont déconsidérées. Parce que tout simplement, s'il vous plaît.
Pourquoi selon vous ces informations sont déconsidérées? Qu'est-ce qui explique cette attitude des autorités provinciales?
C'est ce que je suis en train de qualifier d'irresponsabilité. Parce qu'un bon responsable, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, quand vous avez l'alerte, vous savez qu'on va attaquer tel endroit, vous devez normalement vous déployer. Mais il ne faut pas seulement attendre aussi qu'il y ait l'alerte. Nous avons des officiers bien formés qui savent des stratégies militaires, qui savent où sont les centres d'intérêt où on doit faire des attaques. Vous voyez, par exemple, il y a des sites où on sait qu'ici on va attaquer. Mais pourquoi on ne peut pas précéder, on ne peut pas anticiper pour pouvoir bloquer cette attaque-là? Mais pourquoi, par exemple, la localité qu'on vient d'attaquer aujourd'hui à l'ICI vers Amema, on sait qu'il y avait déjà, moi je l'avais déjà dit même l'année passée, qu'il y avait un groupe très sérieux qui existait sur place. Mais on n'a jamais pris l'information au sérieux. Ils ont même attaqué l'ICI il y a l'année passée. Au lieu qu'on prenne des précautions, on n'a pas pris des précautions. Donc chaque fois on donne l'information, on ne joue pas la tactique militaire comme il faut, et voilà, on expose la population. Mais ce qui est vrai aussi, c'est le désordre qui est dans l'armée, même dans la police. On ne reçoit pas assez de soldes militaires, et tout ça, ça fait en sorte que le militaire, il est vulnérable au front. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un système où on doit complètement à nettoyer et mettre de l'ordre au sein de l'armée, mais aussi au sein de l'administration, tout comme au niveau central, tout comme au niveau provincial.
Dieudonné Wabona, vous êtes analyste indépendant, inspecteur principal de la territoriale dans l'ancienne province orientale, également le dernier chef de district du Haut-Ouélé, ancien chef de district adjoint de l'Ituri. L'Ituri, c'est un coin que vous connaissez très bien. Comment vous analysez ces attaques à répétition dans cette province, des attaques perpétrées par la milice Codeco?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je commence d'abord par condamner de la façon la plus formelle Étienne Thierry, Thierry des civils, des innocents, malheureusement, qui n'ont rien fait, qui ne sont que dans leur village, qui sont tués, et avec ses conséquences, comme vous le savez. À part cette tuerie où on était aujourd'hui depuis fin 2017 à ce jour, nous sommes à plusieurs milliers de tués. Il y en a qui parlent même de plus de 5-6 000 personnes sauvagement abattues, même 10 000, il y en a qui avancent le chiffre. Mais nous avons au moins plus de 1 million de personnes déplacées et près de plus de 200 000 personnes réfugiées. Ça, c'est à partir de fin 2017. Il faut noter que c'est très regrettable pour nous qui étions là peut-être avant, et que c'est depuis 2008 que tout était devenu pratiquement calme, et 15 ans après, fin 2017, qu'on recommence les tueries. C'est un coin que je connais pratiquement bien, effectivement. Le territoire d'Enjoub a 11 collectivités, si on peut le dire, dans l'ancienne appellation. Nous avons 7 chefferies et 4 secteurs. J'ai déjà été au moins dans toutes ces entités lorsque nous administrions à l'époque le district. Les noms ont changé, le moyen, mais l'entité est restée la même. Il est regrettable de constater ces éléments. C'est tous les jours qu'il y a ces attaques. Et il faut noter aussi une chose importante que les gens ne touchent pas souvent, c'est que ce qui s'était passé avant, vers les années 99 à 2003, est très différent de ce qui se passe maintenant. Avant, il y avait des affrontements entre groupes rivaux, mais depuis 2017, c'est un groupe de criminels, c'est ceux qui s'étaient organisés, qui s'attaquent aux populations civiles ciblées. Et là, c'est très important. Pour la petite histoire, tout a commencé vers fin 2016, début 2017, où il y avait les camps d'entraînement militaire dans une forêt de Ouago, un secteur de Walen du Pichi, et il y a eu des alertes. Il n'y a pas eu beaucoup de forces qui ont été faites pour mater ça. Et après, il y a eu l'extension des violences. Et tout le territoire d'Enjoub était pratiquement atteint. Et maintenant, il y a maintenant le territoire du Roumou et de Mahagi, comme vous le connaissez, une petite histoire. Et maintenant, il faut rappeler, le chef de l'État a été même sur place l'année passée, vers fin juin, début juillet 2019. Et il a constaté lui-même ce qui s'est passé là-bas. Et la situation n'a pas encore évolué jusqu'à présent. Quand bien même certaines voies officielles donnent une information comme si la situation a évolué, par contre, on peut même parler d'une aggravation de la situation pour le moment. Ça, il faut le noter. Alors, qu'est-ce qui est constaté pour le moment? L'armée a fait du travail. Il faut louer les actions de l'armée telles qu'elles étaient déployées depuis un certain temps. Il y avait cette pression militaire qui était là, et à un moment donné, on arrivait pratiquement à maintenir la situation. Mais le dernier cas qui est trop inquiétant par rapport à l'ensemble de la population, et que ce que nous constatons, que la grande mission de sensibilisation qui est venue a semblé dire qu'on suspende les opérations militaires. Or, à mon avis, il ne fallait pas rendre cette mission de sanction comme un spectacle. C'est devenu un spectacle, une mission officielle. Il fallait que les opérations continuent pendant que la grande délégation envoyée par les chefs de l'État puisse, dans l'entretemps,
dire aux gens, voilà ce qui peut vous arriver, parce qu'en fait, les crimes qui ont été commis sont graves. Rappelez-vous que même les rapports des Nations Unies ont parlé des génocides, tentatives de génocide, et là, c'est très grave parce que les communautés ont été ciblées. Là, c'est très, 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 très important. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses.
Dieudonné Rwabona, oui. Pourquoi vous qualifiez cette sensibilisation des spectacles?
Non, le problème, c'est quoi? On en a fait une grande médiatisation. Et pourtant, à notre avis, de façon stratégique, l'armée...
On a perdu Dieudonné Rwabona. La réalisation va essayer de le retrouver. En attendant, on va prendre les réactions des auditeurs qui sont très 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 nombreux à nous appeler et à nous envoyer leurs réactions sur WhatsApp. On va prendre pour vous, Maître Lando Mafuta, cette réaction qui nous vient de Harou, dans la province de l'Ituri.
C'est Sonny Benjamin depuis Ariora, à territoire d'Harou. On nous disait que les groupes armés Codeco étaient prêts à déposer les armes. Mais comment comprendre que ces attaques se multiplient encore? Ce qui montre que les conditions de désarmement ne sont pas réunies. Pourquoi le gouvernement congolais est toujours irresponsable et insouciant? Si les FARDC étaient bien payés, on aurait déjà la paix au Congo.
Maître Lando Mafuta, comment vous répondez ou réagissez au propos de Sonny Benjamin qui nous a appelé depuis Yarou?
Oh, merci beaucoup madame, je salue Benjamin qui nous appelle, qui nous pose cette question à Yarou. Je voulais rassurer Benjamin que finalement, le groupe armé Codeco est sur le point de déposer les armes. Et il va s'en dire que finalement, plus de 3 000 éléments étaient déjà rendus, qui sont déjà cantonnés pour enfin effectuer les désarmements. Alors, madame, le mobile qui pousse ces groupes, qui pousse ces réfracteurs de pouvoir agir maintenant, n'est pas connu. Mais nous pouvons envisager ce que nous pouvons penser que ce soit un mobile qui soit n'est-ce pas, qui vise par exemple des éléments incontrôlés mais qui seront assimilés au groupe Codeco, parce que dans la zone il y a plusieurs groupes armés qui sont en mouvement dans de ce côté-là, mais ça pouvait aussi se faire que ce soit des initiatives prises, n'est-ce pas, pour chercher à monter les enchères. Hein, généralement, les groupes armés ont l'habitude de faire ça pour monter les enchères afin de pouvoir soit décourager ceux qui se mettent dans la posture de pouvoir déposer les armes. C'est de leur groupe qui se mettent dans la posture de pouvoir déposer les armes. Soit encore décourager, n'est-ce pas, les initiatives des autorités qui veulent les amener à pouvoir déposer les armes.
Mais là, c'est juste oui, une faction de cette milice qui a accepté de déposer les armes. Vous avez suivi les analyses de Gratien de Saint-Nicolas, qui est député national, et de Dieudonné Rwabona, qui est notre analyste indépendant. Pour eux, il ne fallait pas suspendre les opérations militaires. Est-ce que vous confirmez d'abord que les opérations militaires ont été suspendues?
Il n'y a aucune opération militaire suspendue de ce côté-là. Les opérations militaires n'ont jamais été suspendues. Vous avez appris avec moi qu'il y a quelques jours qu'on a dit l'armée a pu neutraliser quelques éléments maï-maï de ce côté-là. Vous comprenez? C'est la preuve suffisante que les opérations militaires n'ont jamais été suspendues. Je voulais revenir par rapport à ce qu'a dit Honorable Irakan. Honorable semble avoir les informations des perpétrations des attaques futures. Mais je conseille à l'honorable de pouvoir les mettre à la place, de pouvoir les mettre à la disposition des autorités qui vont prendre, comme il est à Kinshasa, il est député national, il sait quelle autorité saisir pour que finalement on prenne des dispositions totales. En tout cas, madame, je conseille à l'honorable Irakam de pouvoir saisir les autorités et il verra, saisir également aussi les mécanismes nationaux de suivi, il verra comment est-ce que finalement nous allons, en fait, les autorités vont réagir promptement à ces initiatives. Mais là aussi, il y a un autre problème, madame.
Je vais vous redonner, je vais vous redonner la parole, maître Lando, s'il vous plaît. On me signale que Dieudonné Rwabona est en ligne. Monsieur Rwabona, vous êtes là?
Je suis là, madame.
Voilà, on a eu un petit souci avec le réseau.
Oui,
alors, je posais la question de savoir pourquoi vous qualifiez cette sensibilisation de spectacle, elle, alors qu'elle a commencé déjà à porter des fruits. Il y a une faction de la CODECO qui a accepté de déposer les armes.
Non, je pense qu'il ne faut, c'est pas pour minimiser la sensibilisation. Moi, je me dis que ce n'est pas pour rien que on a envoyé, le chef de l'État a envoyé tous les membres de la délégation d'une même communauté pour dire que, voilà, les peuples de Côte-de-Côte est essentiellement, si pas exclusivement, composé de membres essentiellement de la communauté lundi. Mais pas seulement, tout le fait que la communauté n'est pas derrière Côte-de-Côte. Il y en a qui veulent l'appeler cette.
Décidément, la ligne téléphonique de M. Rwabona pose problème. Maître Lando, on vous écoute.
Oui, madame. Je disais que l'honorable devait, en principe, en fait, doit s'activer à pouvoir saisir les autorités pour mettre à leur disposition les informations nécessaires pour pouvoir contrer ces attaques. Mais je voulais aussi souligner une chose. Ces miliciens-là, ce sont les membres de la communauté. Hein, de ces gens qui sont tués dans ces différents villages. Ces miliciens-là sont souvent, ceux qui perpètrent ces attaques-là, ils sont souvent confondus dans la communauté. Et c'est là aussi que je reviens pour, n'est-ce pas, demander à la communauté, ou responsable de la communauté, de pouvoir dénoncer ces gens, au lieu de les cacher. Parce que si ils vont continuer à les cacher, ils vont continuer à perpétrer les attaques.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des complicités au sein de la population?
Oui, mais madame, mais il est possible que, parce que finalement, ces ennemis de la paix, là, ils ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent seulement de la communauté. Vous voyez, et il est possible qu'au niveau de la communauté, qu'il y ait des informations qu'ils ont, et que finalement, on ne sait pas le mettre à la disposition des autorités. Parce que la communauté doit comprendre que c'est elle qui souffre beaucoup plus. Hein, c'est elle qui est victime des perpétrations des actes ignobles. Et c'est cette communauté-là dont nous faisons appel de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à pouvoir dénoncer ces actes-là.
Gracien de Saint-Nicolas, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia.
C'est Aimé Bagouma depuis la ville de Bounia. Pour mettre fin à ces massacres qui se vivent dans le territoire de Ndjougou, il faut que l'armée prenne sa responsabilité en organisant une action militaire de grande ampleur dans tous les coins du territoire de Ndjougou au même moment et de commencer à récupérer les auteurs intellectuels qui sont impliqués dans ces massacres. Et en plus de cela, on ne peut pas négocier avec les génocideurs.
Gracias, Saint-Nicolas.
L'auditeur a tout à fait raison. Moi, je vous donne l'exemple. Moi, je faisais partie de la délégation qui est partie à Ituri. Ça chauffait encore, c'était l'année passée, au mois de juillet. Mais à moins d'un mois, le général Chiviri, que je salue en passant, il a terminé, il a nettoyé pratiquement tous les touristes, il n'y avait plus d'hostilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? On va lui ordonner à ce qu'on puisse commencer à retirer toutes les troupes qui étaient sur place. On a retiré les régiments qui étaient sur l'axe Maggi, on a retiré les régiments qui étaient sur... Partout, on a retiré tous les militaires, on va les envoyer où? Et on les a fait sortir, ils sont partis. Ça veut dire que c'était délibéré. Qui a donné cet ordre-là pour qu'on puisse récupérer tous les militaires qui étaient là quand on savait que c'était une zone fragile. J'aimerais revenir un peu sur ce que mon co-débatteur a dit, celui qui travaille au mécanisme de suivi, qu'il puisse demander ce soir même à son chef, hein, que je respecte beaucoup, je ne vais pas citer son nom ici, le numéro 1 des mécanismes de suivi. Je suis à tout moment qu'il puisse demander qu'est-ce qu'on s'est dit récemment avec lui. Je lui ai dit, voilà ce qui fait que les hostilités à Ituri, ça rébondit, c'est ça. Il connaît ce que j'ai dit. Et il est sur mon système d'alerte. Quand moi j'envoie un message WhatsApp, son chef reçoit automatiquement. Et ce n'est pas seulement son chef, ce sont toutes les hautes autorités et tous les officiers, les hauts officiers, les généraux, les colonels, tous ils reçoivent les alertes. Et quand moi je fais quelque chose, je le dis, je ne suis pas un député de la rue. Il y a des lettres, des tonnes de lettres que je dépose tous les jours au ministère de la Défense, de l'Intérieur et même au niveau de la primature à ce qui concerne les dossiers sécuritaires de l'Ituri. Et je me demande, est-ce qu'ils lisent même ces correspondances-là? Je ne crois même pas parce que parfois je vais les voir. Récemment, j'ai discuté avec le Premier ministre sur la situation de Bounia.
Bunia, de l'Ituri. Je lui ai dit comment il y avait des armes partout dans Bunia et dans les environs, comment Bunia était dans l'insécurité, comment les territoires de Njugu, tout ça était. Je lui ai dit en face. Moi, j'ai réunion avec demain avec les ministres de la Défense. À tout moment, je travaille avec les ministres de l'Intérieur. Nous avons eu la réunion la fois passée et je suis en train de négocier encore une autre rencontre. À tout moment, on n'est pas politicien des réseaux sociaux ou de la presse, des médias, mais nous sommes en train de faire un effort pour être à tout moment sur terrain. Mais les résultats sont nuls. On vous écoute et on n'applique pas. Aujourd'hui, je vais décrire une lettre encore au Premier ministre qu'il aille à Ituri avec un groupe d'experts indépendants, qu'il puisse aller voir ce qui se passe sur terrain, qu'il parle avec la population et qu'il trouve une solution.
Dieudonné Rwabona, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Likasi.
Lévi Kilungulungu de Likasi dans le Haut-Katanga. C'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs débats sans qu'aucune mesure ne soit prise de la part des autorités. Tous les massacres observés à Ituri sont le fruit d'une part de l'échec du processus de démobilisation du fait du manque des fonds disponibles quant à ceux et d'autre part de l'absence de l'autorité de l'État sur les territoires nationaux. Depuis l'avènement de l'actuel régime au pouvoir, l'insécurité sur les territoires nationaux se porte bien. Pour y remédier, il faut que le pouvoir en place disponibilise des fonds nécessaires dans le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion et, cas échéant, s'imposer en tant que force établie dans le but de rétablir l'ordre. Il ne faut pas que les milices profitent de la faiblesse de l'État en se croyant tout permettre en mettant les pauvres citoyens mal à l'aise.
Dieudonné Rwabona, comment vous réagissez à ce point de vue de Lévi qui nous a appelé depuis Likasi?
Bien sûr, il faut donner les moyens pour le désarmement, mais ce n'est pas parce qu'une fraction des groupes, des hommes armés illégaux qui massacrent des populations, et ils viennent pour dire voilà, nous allons maintenant sortir, on nous cantonne, il faut qu'on puisse faire les DDR. La première chose, c'est d'abord de déployer énormément de militaires sur l'ensemble, notamment en territoire de Njugu, et commencer des bouclages dans chaque village. Et après, cette puissance de feu, c'est alors qu'on peut parler de DDR. De toutes les façons, ces miliciens, si nous parlons de Kodoko, dans leur village, il n'y a aucun problème d'insécurité. Donc, il est tout simplement question de remettre les armes et de rentrer. Et les objectifs, lorsque nous avons suivi un commandant qui parlait, il parlait d'histoire de balkanisation, je ne sais pas, des étrangers qui se battent. Mais pendant tout ce temps-là, les milliers de personnes abattues sauvagement dans leur village, ce sont déjà avec qui ils vivent depuis des siècles. Donc, il est pris, les revendications faites généralement, c'est ce que je dis, il faut que la sensibilisation ne se fasse pas comme si on venait demander, voilà, les opérations sont un peu suspendues, quels sont vos cahiers de charges? Et là, ça devient un problème. Il faut d'abord les opérations militaires continuer, et lorsque les opérations vont continuer dans l'entretemps, le frère venu pour la sensibilisation dise, voilà ce que vous faisiez est très grave, le crime commis sont graves, remettez les armes, et voilà que la paix revienne, et c'est ça la volonté de l'État, de l'ensemble de la population. Et c'est ce qui est très important, il faut souligner ça.
À suivre vos analyses, Dieudonné Rwabona, on a l'impression que vous n'accordez pas beaucoup de chance aux initiatives en cours pour le désarmement de cette milice.
Je serais très content qu'il y ait des désarmements, mais les cantonnements jusqu'à ce niveau ne signifient pas les désarmements. Cantonner quelqu'un sans qu'il ait subi une pression, vous lui demandez son point de vue. Lorsque, par exemple, tous les moyens ne seront pas réunis pour les armées, parce qu'ils ont posé des conditions. Je suis général, dès qu'on ne satisfait pas à ces conditions par rapport au groupe qui a été, par exemple, déployé autour de Bunia, et il faut signaler que ce groupe-là était juste venu lorsque les sensibilisateurs étaient venus, parce que la localité là ne comptait aucun groupe armé, aucun élément armé. Alors, ils viennent là-bas et ils s'imposent, c'est pour maintenant accentuer même les exactions autour de Bunia. Donc, la chance peut être accordée s'ils changent leur façon de sensibiliser. Au lieu d'en faire un problème de toute la presse et de tout le monde comme c'était un événement venu là-bas, il faut que l'opération continue et sensibiliser le frère. Et je l'ai dit que tous ceux qui étaient envoyés en délégation, ce sont de la même communauté que la plupart des Codeco, je ne suis pas exclusivement de la Codeco. Et là, c'est très important.
Et c'est
à ce sujet-là.
Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Dieudonné Rwabona, pour faire cesser les massacres contre les civils en Ituri?
Pour cesser les massacres contre les civils en Ituri, il faut un déploiement d'un effectif important d'une unité. J'ai appris qu'il y a un bataillon qui est déjà engagé, il faut même une brigade, parce qu'à l'époque, il y avait deux brigades dans le seul territoire de Njugu.
Il y avait la 4e brigade qui était là, commandée par le colonel Lecoube à l'époque général. Il y avait la 1ère brigade, le colonel Lecoube c'est la 1ère. Il y avait la 4e brigade à l'époque du colonel. Il y avait au moins 6 brigades à l'Ituri. Mais dès qu'on ne déploie pas les jaillis, on commence seulement à laisser les populations et tout ça, ça devient tout un problème. Donc il faut d'abord imposer la paix par un désarmement. Et ceux qui vont se sentir vraiment forcés, et dans l'entretemps, on sensibilise, et cette sensibilisation ne doit pas faire l'objet d'un grand événement de la presse. Non, parce que les cantonnements qui est fait jusque-là, aucune arme n'est encore désarmée, il faut noter ça. Et cantonner ne signifie pas désarmer. Qu'adviendra-t-il lorsque les conditions posées par ces groupes qui sont suffisamment armés ne sont pas respectées? Ça veut dire qu'un désastre peut encore reprendre dans un rien de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les quelques milliers de... un seul millier de personnes de la FRPI, le processus n'est pas encore fini. Et je ne pense pas qu'il y ait des moyens pour pouvoir accéder à tout groupe, même criminel, qui a commencé à tuer gratuitement les gens, et on doit chaque fois accéder, voilà. Donc il y aura la création et la multiplication des groupes inutiles pendant que l'État pouvait s'imposer par rapport à ce fonds de défense et de sécurité dont il dispose.
Maître Lando Mafuta, quelle chance vous accordez aux initiatives en cours pour le désarmement de la CODECO? Maître Lando Mafuta? Maître Lando Mafuta, est-ce que vous êtes là? Je crois que nous l'avons perdu. Gracien de Saint-Nicolas, quelle chance accordez-vous aux initiatives en cours pour le désarmement de la CODECO?
Bon, oui, il faut qu'il y ait une réelle volonté de la part du gouvernement aussi, des miliciens, des groupes armés. Parce que ce qui est vrai avec les pré-cantonnements, les cantonnements, on n'y va nulle part. On connaît les résultats avec ce qui se passe avec FRPI aujourd'hui. Mais c'est important qu'il y ait les sites de transit, comme on l'a fait avec DDR à l'époque. Il y avait une force française qui était là, qui a fait la pression militaire, et après, il y avait les DDR qui a suivi, et on avait installé les sites de transit, où chaque milicien, il arrive, il dépose soit les armes, il revient dans la vie civile, ou alors il s'engage dans l'armée. Et là, c'est plus simple. On lui, quand il veut revenir à la vie civile, on lui donne l'argent, on l'installe, et il apprend les métiers. Quand il va dans l'armée, on les transfère, on les fait voyager, il va là où on fait la formation. Mais on a fait aujourd'hui un imbroglio où on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait avec les pré-cantonnements. Et vous voyez ce qui se passe à Irumu, site d'Irumu, où les miliciens, ils quittent les sites de pré-cantonnements, ils vont piller les gens, ils reviennent, ils sont armés. Mais comment ça, on peut faire des désarmements dans les cadres paroles? Je ne crois pas. Donc il faut qu'on soit réaliste. Mais aussi il faut qu'on puisse résoudre les préalables. Pourquoi les gens sont arrivés à prendre les armes, à se tuer, à s'entretuer? Il faut savoir qu'il y a des revendications. On est en train de revendiquer ce que ces gens ils sont en train de faire. Il faut qu'on puisse lier les revendications et qu'on leur donne une réponse. C'est la même chose avec d'autres tribus, d'autres communautés dans la ville de Bounia, hein, ou dans la ville dans les territoires de Roumou, où il y a des communautés qui ont des revendications. Mais au lieu de donner réponse à leurs revendications, on cherche seulement à les mater, et à chaque fois que quelqu'un se révolte, il prend des armes, il tue. Et je donne l'exemple. À Mahagui, il y a par exemple certains militaires qui réclament Mahagui comme leur terre. Mais ce sont des choses inadmissibles. Il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble, on leur donne une réponse. Et au niveau des Bounia, à Nirumu, il y a la communauté Bira qui se trouve envahie par la ville. On ne veut pas négocier avec eux.
Ils trouvent leur droit
qui ne marche pas.
Il faut quand même qu'on... Oui. En conclusion, Gracien de Saint-Nicolas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelle est votre conclusion?
En conclusion, je voudrais à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que nous avons un fait qui est là, il y a des gens, des criminels qui sont en train de tuer. Et pour les arrêter, pour qu'ils arrêtent avec les massacres, le gouvernement doit assurer la protection des civils. Et c'est là qu'il faut un déploiement conséquent, mais aussi faire une pression pour que les gens commencent à faire les désengagements et passer par la démobilisation. C'est ça notre souhait. Et le gouvernement doit bien prendre soin de l'armée. Il faut auditer l'armée, il faut contrôler l'armée, il faut suivre l'armée. Il y a beaucoup de fonds qui n'ont pas de trace dans l'armée et il faut des contrôles réguliers, il faut sanctionner les officiers qui sont complices, qui ne travaillent pas, il faut les relever. Le chef de l'État disait qu'il allait relever, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Donc, c'est ça le désordre qui règne au sein du gouvernement.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas. Je rappelle que vous êtes député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri, cadre du regroupement politique MS de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition L'Amour Mafouka. Maître Lando Mafouta, ça sera aussi votre conclusion. Quelle chance accordez-vous aux initiatives en cours pour le désarmement de la CODECO?
Madame, nous saluons toutes ces initiatives prises par les autorités nationales comme provinciales. Nous savons que, par exemple, sur demande d'autorités provinciales, il y a une table ronde sur la paix et le rétablissement de la situation sécuritaire et humanitaire qui ouvrira ses portes à commande à partir du 19 août. Et à Kinshasa, le gouverneur des provinces est sur place pour, n'est-ce pas, discuter de DDR communautaire par rapport à ces éléments. Et madame, ce que l'honorable n'avait pas dit, il y a quelques jours que il y a eu condamnation à des peines de prison fermes pour les éléments CODECO qui étaient devant la justice. Ça, ce sont des actions à saluer. Et nous encourageons aussi les groupes de sensibilisateurs de ne pas baisser la garde, de pouvoir continuer cette demande, cette démarche, parce qu'ils ont l'appui du chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, et Président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ils ont aussi également l'appui du mécanisme national, et c'est seulement après différentes initiatives qui amène vers la paix, qu'on parlera de la paix définitivement et durable sur ce coin du pays.
Merci, Maître Lando Mafouta, conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Vous êtes au point focal du MNS en Ituri. Dieudonné Wavola, votre conclusion.
Il faut saluer toutes les initiatives des chefs de l'État par rapport à la voie de la force de sensibilisation, mais ces sensibilisateurs doivent avoir une approche qui n'est pas celle de maintenant où tout doit se faire de façon officielle. Il faut laisser la chance d'abord au déploiement de l'armée et à la pression de l'armée, et en même temps on sensibilise presque en coulisses, on disait, pour interpeller la conscience de frères pour qu'ils abandonnent les armes. Ce n'est que de cette façon-là, avec un déploiement fort, une unité engagée exclusivement pour le désarmement, même forcé, et cette pression-là va permettre à ce que la sensibilisation réussisse. Et si ce n'est pas le cas, appelez juste les gens à se cantonner pendant qu'aucune arme n'est encore remise, et tous les groupes vont se multiplier parce qu'ils vont s'attendre à beaucoup de dividendes à tirer par rapport à ce processus, pendant que l'État peut-être aura des moyens limités.
Merci. Dieudonné Wavola, analyste indépendant, inspecteur principal de la territoriale dans l'ancienne province orientale. Vous êtes également le dernier chef de district du Haut-Ouélé, ancien chef de district adjoint de l'Ituri. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guimaté Donamadimba, sous la supervision d'Axel Gonto. Merci à Polydor Basunga qui est à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.